Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis, les girafes, de vous retrouver pour cette rentrée 2026 avec ce nouveau rendez-vous dans le cadre du partenariat qui nous unit avec le Hilton Le Havre et avec lequel nous avons organisé déjà toute une série de soirées thématiques et d'interviews toutes plus intéressantes les unes que les autres et toujours à l'écoute sur Radio Girafe Normandie en podcast. On se retrouve donc ce soir pour un nouveau thème avec Guillaume, le jet de girafe, puisqu'on aura le plaisir de co-animer, une fois n'est pas coutume, cette soirée. Et puis, on est sous surveillance, pas très loin, le R de girafe. Raphaël est pas loin. Et je suis donc Frédéric, le F de girafe. Donc, depuis plusieurs mois, ce partenariat nous permet régulièrement avec le Hilton d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre territoire, de mettre en lumière en public et en direct des initiatives, des parcours et surtout des engagements. Et ce soir, nous allons justement parler d'engagement à travers le monde associatif havrais, avec un angle un peu particulier, celui de l'engagement utile, concret, parfois même vital, vous comprendrez pourquoi. Des femmes et des hommes qui donnent leur temps, leur énergie, leurs compétences pour secourir, accompagner, aider ou collecter des fonds au profit des autres. On a donc le plaisir ce soir avec Guillaume de recevoir la SNSM du Havre avec son président Éric Perrotte.
Bonjour.
Président donc de l'antenne havraise de la SNSM et avec celles et ceux qui portent secours en mer. La Croix-Blanche avec Jocelyne Mailleux, vice-présidente donc de la Croix-Blanche au Havre, engagée dans, comme on le sait, le secourisme et la protection des populations. Frédéric Julliard, président de la Bourse d'aide aux chômeurs au Havre, qui agit au quotidien auprès des personnes en difficulté. Et enfin, les navigatrices du désert, Aurélie, Bénédicte et Sarah, qui nous écoutent à distance, qui est de l'autre côté de la France. Mais je suis certain qu'elle est en train d'écouter en direct notre émission, puisque je le précise, effectivement, nos émissions sont à présent également diffusées en direct. Navigatrices du désert qui ont choisi une autre forme d'engagement, se lancer en novembre dans un trail au Maroc pour collecter des fonds au profit de l'association Les Invincibles. Quatre associations, quatre univers différents, mais finalement une même question. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui des femmes et des hommes à donner de leur temps et à s'engager pour les autres? C'est ce qu'on va découvrir ensemble ce soir pendant cette émission. Bienvenue au Hilton, le live sur Radio Girafe Normandie. Et je passe la parole à Guillaume pour un premier échange avec le président de la SNSM.
Merci Frédéric. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et puis bonsoir à vous. Merci d'être présent pour cette invitation. Éric, tu es président de la SNSM. Alors, les micros sont là, en face de vous. Tu es président de la station SNSM du Havre. On connaît à peu près tous ce qu'est la SNSM, mais malgré tout, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, que c'est une association. Par exemple, que ce sont des bénévoles qui la font vivre, pour l'essentiel. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le rôle et les missions de la SNSM, mais avant tout, peut-être quelques mots sur ton parcours, s'il te plaît?
Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci à Radio Girafe de nous donner la parole et de nous donner un peu de visibilité à toutes les associations qui œuvrent pour le bien-être et la sécurité de tout le monde, de tous. Donc, Éric Perrotte, je suis maintenant un retraité, donc je suis un vieux. Mais j'ai 40 ans de marine marchande, 26 ans sur le port de Rouen comme pilote maritime. Et j'ai commencé à m'intéresser à la SNSM déjà tout petit. Je pense que c'est dans notre éducation maritime qu'on reçoit. Alors, on s'implique pas forcément dans les stations, mais tout au long de notre carrière, on fait du sauvetage parce que c'est obligatoire en mer sur les cargos, que ça soit sur un cargo ou sur un petit bateau au large. C'est quelque chose, c'est le règlement international du sauvetage de la vie humaine en mer. On m'a sollicité en 2017 pour rentrer à la SNSM du Havre comme trésorier. J'ai pris mes fonctions de trésorier en 2018. Mi-2018, on m'a demandé de faire vice-président également. Et jusqu'en 2023, on m'a donné le poste de président. Donc voilà, donc une dizaine d'années au service à temps plein, tout en étant bénévole à la SNSM du Havre. La SNSM du Havre, c'est 60 personnes. 60, ouais. 66 personnes exactement.
Excuse-moi Eric, peux-tu d'abord nous parler des missions en fait, de la SNSM, parce que c'est aussi avant tout une association nationale.
Alors, effectivement, la SNSM, c'est une seule association avec un seul président, qui est le président Emmanuel Oliveira, donc qui est un bénévole également. Et il donne la délégation au président de station, comme moi, ou au directeur de CFI. Je reparlerai du CFI un peu tout à l'heure, parce que ça fait partie de la formation des sauveteurs et aussi des nageurs sauveteurs secouristes qui sont sur nos plages tout autour de la France pendant tout l'été. Donc voilà, un président avec un CA de bénévoles et quelques salariés. Ensuite, il y a 5 inspecteurs généraux, et chaque inspecteur général a une dizaine de départements sous sa responsabilité.
D'accord.
Chaque département, il y a un délégué départemental et après il y a les stations.
D'accord.
Donc c'est quelque chose qui est pyramidal et très hiérarchisé.
Ok, donc je crois qu'il y a à peu près 205 stations de sauvetage en France. Dont 189 permanentes à peu près, je crois, en France et dans les DOM-TOM. En Normandie, sur les 600 km de côte, on a 36 stations de sauvetage, qui est quand même beaucoup. Et au Havre, donc, comment s'organise la station du Havre? Quels sont les hommes et les femmes qui composent cette station? Quels sont leurs profils et quelle est la mission pour eux?
Toutes les missions de la SNSM dans son ensemble, c'est secourir, former, et prévenir. Donc les interventions, c'est pour nous, c'est à peu près à 20 000 des côtes. Donc 20 000 des côtes, c'est 40 km à peu près. Pour ça, on a deux moyens nautiques, une vedette de 15 mètres avec 2 fois 500 chevaux. C'est une vedette de nouvelle génération de première classe. Donc c'est une vedette qui est, pour la SNSM, qui est relativement récente, elle a 15 ans. En sachant que malheureusement, une grande partie de la flotte de la SNSM a plus de 30 ans. Petite parenthèse, la SNSM est le premier armateur en France, devant CMA, CGM et tout ça, en nombre de bateaux.
D'accord.
pas en nombre de tonnage. Parce qu'effectivement, on a à peu près 800 embarcations. À la SNSM, dont un quart sont uniquement des vedettes ou des semi-rigides. Semi-rigides, pour le grand public, en fait, c'est ce qu'on appelle les zodiacs.
D'accord.
Donc, nos interventions, c'est de tout type.
Il y a du sauvetage.
C'est de tout type, mais il y a surtout deux catégories. La première catégorie, c'est le sauvetage à la personne. Donc là, c'est on part et on va sauver des gens, on va sauver la vie de personnes, et qui est à peu près la moitié à peu près de nos interventions sur le Havre. Et après, on a des opérations qui sont pour faire du sauvetage aux biens.
D'accord, plutôt des missions d'assistance.
C'est essentiellement du remorquage ou aller récupérer, vérifier qu'il y a une bouée qui se trimballe par là, qui a dérivé, une bouée maritime, pas une bouée de sauvetage, mais une bouée maritime, ou voir il y a quelque chose qui traîne. On nous a appelé cet hiver pour vérifier qu'il n'y avait pas une pollution au large de la plage, quoi, par exemple. Voilà. Ça peut être ce type d'intervention. Ça peut être, mais c'est aussi... l'année dernière, on est intervenu sur la digue du Ratier, donc c'est l'embouchure de la Seine. La digue sud du Ratier, où il y avait deux bateaux qui malheureusement se sont mis sur les rochers et dont il y en a un qui a coulé et ça a été une perte totale du navire. Pas de blessés, pas de victimes, voilà. Grâce au concours de la SNSM du Havre, aidé pour le coup par la SNSM d'Honfleur.
D'accord. Quels sont les profils des personnes qui sont à la SNSM pour la partie opérationnelle? Est-ce qu'il faut être... Toi, tu as dit que tu étais marin. Est-ce qu'il faut être marin pour intégrer la SNSM ou est-ce qu'on peut avoir un autre profil complètement différent?
Alors, au Havre, on a la chance. Potentiellement, on a 200 000 personnes qui peuvent être bénévoles à la SNSM. Bon, Après, on va nuancer parce que il y a d'autres associations qu'on peut besoin.
Oui, il faut en laisser aussi pour les autres associations. Ouais. Merci.
On en laisse aux autres. Mais surtout, pour pouvoir réussir à faire nos missions de sauvetage de vie humaine, on a un délai d'embarcation, de départ, qui est de 20 minutes. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on va nous déclencher, on nous dire « vous partez en mission », le bateau doit être parti 20 minutes plus tard.
D'accord, il faut que potentiellement les 200 000 personnes soient à moins de 20 minutes de la station.
Voilà, donc, nous on demande un quart d'heure, oui, que les gens habitent à un quart d'heure de la station pour nous laisser 5 minutes pour nous préparer. Okay. Donc voilà, ça c'est la personne. Maintenant, les qualités et la formation des gens. Eh ben, moi je suis marin et je ne suis pas secouriste. Donc j'ai besoin de secouristes qui vont devenir embarqués. Mais il y a des gens qui sont des professionnels du secours, oui, la Croix-Blanche, bénévoles aussi, mais eux, c'est leur créneau, les pompiers, les infirmières, les hospitaliers, les ambulanciers. Et tout cela, c'est des gens qui sont des professionnels du secours. Et à bord d'une vedette, on a besoin d'eux, comme eux ne sont pas marins au départ. Bon, voilà, donc... Il n'y a pas une appétence particulière pour être bénévole de la SNSM. Voilà,
en dehors de tous ces métiers dont tu viens de citer, on peut aussi faire partie de la SNSM et se former au fur et à mesure avec les entraînements, même si on n'est ni infirmier. Alors, on peut être par exemple avocat.
Voilà, alors c'est là que c'est l'autre partie qui est intéressante, c'est que la SNSM, on est en autogestion localement. Donc moi, en tant que président, très peu de notions de droit maritime un petit peu, mais autrement tout le reste du droit, le droit public, le droit des affaires et compagnie, j'ai aucune notion. Donc on a la chance à la station d'avoir deux avocats. Donc voilà, dès qu'on a un problème un peu juridique, on fait appel à eux. On a des gens qui viennent des avions également. Donc c'est un apport aussi, une certaine façon de savoir hiérarchiser l'urgence.
Chaque personne, chaque parcours a des compétences qui peuvent être utiles à la SNSM.
Voilà. On a des informaticiens, on a.
Il y a
même une inspectrice des impôts.
D'accord. Ce qui peut être aussi utile, effectivement.
Qui peut être utile.
Il y a une limite d'âge pour y entrer ?
Aucune. La seule limite d'âge, ce qui peut vous empêcher d'être sauveteur embarqué, effectivement, c'est l'âge. À partir de 68 ans, on ne peut plus être sauveteur embarqué. 70 ans pour. Après, on a jusqu'à 70 ans pour pouvoir faire des aides et 74 ans avec des dérogations.
D'accord. Donc là, on vient de parler de la partie opérationnelle, des missions d'assistance, des missions de sauvetage que fait la SNSM. Il y a une deuxième partie, la partie événementielle également, constituée pour moitié de l'équipe complète en fait, de la SNSMOA, je crois.
Alors oui.
Est-ce que tu peux nous parler de son rôle, de ses missions ?
Alors nous, effectivement, on est 66, je crois, j'ai regardé le dernier effectif, 66. Sur les 66, on est 29 sauveteurs embarqués et donc 37 événementiels. Ces 37-là ne vont pas embarquer. Donc effectivement, la moyenne d'âge est un peu plus élevée que les embarqués. Je tiens à préciser que sur les embarqués, également, on a une seule personne qui est retraitée. Donc, on a 28 personnes qui sont bénévoles d'astreinte
et
d'activité. Donc, ça veut dire que quand ils partent en mission, eh ben, ils laissent tomber leur boulot. Alors, dans les gens qu'on a, on a vu des avocats, mais on a des chefs d'entreprise, des artisans, des gens qui sont à l'hôpital, qui font des quarts et tout ça. Donc, il y a tout un roulement, une procédure pour avoir des gens en astreinte. Pour la partie événementielle, c'est la partie qui va nous permettre de récolter des fonds. Donc là, on est 37, hein, une grosse trentaine. Et pareil, on a tous les profils. Ces gens-là vont nous permettre de faire la boutique, ce qu'on appelle la boutique, où on va vendre tous les goodies et textiles qu'on peut vendre. les beaux t-shirts qu'on a. Et vous pouvez venir d'ailleurs les acheter tous les dimanches matins, tous les premiers dimanches matins de 10h à midi à la station SNSM, à côté de la station essence Total sur la plage. Donc, on est organisé avec un responsable événementiel qui va gérer toutes les demandes extérieures, que ça soit de la ville, que ça soit de Radio Girafe, que ça va être aussi le port, et on va participer à toutes ces activités en montant un stand, ce stand avec la boutique, et on a un responsable boutique aussi avec son équipe qui s'occupe de tout ça. La SNSM ne peut pas vivre sans l'événementiel.
Comment fonctionne-t-elle d'ailleurs? Elle fonctionne avec des dons, c'est ça?
Oui, mais l'événementiel ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas le sauvetage.
D'accord.
Donc c'est vraiment une équipe, un équipage complet à terre et en mer. Le financement, alors c'est un grand mal actuel, un grand mal social. Jusqu'à maintenant, on avait une bonne presse, on va dire, et on avait pas mal de dons spontanés, grâce aux événements, grâce à la vente de nos calendriers aussi. Cette année, on n'a pas pu les vendre parce que la fête de la mer, qui était notre grand marché, a été annulée. Donc voilà. Mais après, on a des événements locaux, les petits marchés. On a après des événements un peu plus départementaux, on va dire, type les fêtes de la mer. Et après, on a des événements, je dirais, nationaux, la Transat Café L'Or, pardon, maintenant, ou qui, globalement, quand ça se passe bien, quand il fait beau pour nous, on arrive à boucler une année de budget.
D'accord.
Et après, c'est les dons.
OK. Eric, j'aurais eu encore beaucoup d'autres questions à te poser. Malheureusement, le temps nous est compté. Je te remercie. Peut-être qu'on pourra revenir sur une ou deux questions après, en fonction. Je te remercie de cette intervention. On peut juste dire peut-être un petit mot si jamais on est témoin ou victime d'un incident ou d'un accident, qu'on soit sur la plage ou en mer. On peut appeler téléphone.
Par téléphone avec un mobile, le 196, et on tombe directement sur le CROSS Jobourg, qui est CROSS Jobourg, centre régional des opérations de secours et de sauvetage, qui, lui, va gérer tous les dangers et toutes les crises nautiques, on va dire, et maritimes. Juste une chose, on a parlé rapidement des CFI. Les CFI, Centres de Formation et d'Intervention, c'est eux qui forment les jeunes qui vont aller aider moins jeunes, parce que l'année dernière, il y a eu quelqu'un qui était à la retraite qui est venu se former, et qui vont être les sauveteurs, les nageurs sauveteurs sur les plages.
Sur les plages.
Et cette année, le CFI du Havre va organiser le 12 septembre sur la place Perret, donc une journée d'information de 14h à 18h avec une réunion d'information pour tous ceux qui sont intéressés à partir de 16h. Venez nombreux, c'est vous qui allez sauver les gens cet été.
Merci Eric. Le message est passé. Je te remercie et je laisse la parole aux deux Frédéric maintenant.
Merci Guillaume. Sans transition, la bourse d'aide aux chômeurs. Donc merci Frédéric Julliard d'être avec nous ce soir. Merci de consacrer un petit peu de temps pour parler de cette bourse d'aide aux chômeurs. Et en commençant peut-être par une question simple et qui semble évidente, c'est un peu d'histoire de d'où vient la bourse d'aide aux chômeurs, depuis combien de temps ça existe et peut-être quel est son périmètre d'activité. Est-ce que c'est local, régional ou national?
Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vais répondre très directement à la question de la création. Ça a été créé en 1987.
D'accord.
Et la bourse d'aide aux chômeurs est une émanation de la Croix-Rouge. À l'époque, c'était Philippe Caillère qui en était président. Et il a créé, avec un de ses amis de l'époque, Bernard Guillemette, ils ont créé la bourse d'aide aux chômeurs. Alors la bourse d'aide aux chômeurs, son objectif, c'est de réinsérer les gens par le travail. Des gens qui sont éloignés de l'emploi pour plusieurs raisons, et puis de les former. Donc les différents métiers sont la propreté, le ménage, le repassage. C'est un peu plus de 50% de l'activité. Ensuite, tout ce qui va être travaux d'espaces verts, entretien d'espaces verts, Donc on utilise le matériel de nos clients. Hein, on n'arrive pas avec nos tondeuses ou nos sécateurs. On vient chez les clients et on utilise leur matériel. Ça, c'est une grosse partie aussi de l'activité. Ensuite, tout ce qui va être travaux de manutention. On fait de l'empotage dans les conteneurs, on manutentionne divers objets. On fait aussi également beaucoup de débarras de caves et de greniers. Avec la mise en déchetterie, bien sûr, qui va avec. Voilà à peu près les métiers que l'on propose. On fait un peu plus de 200 bulletins de salaire par mois. Donc c'est une grosse
considérable.
Association. Ouais. Mmh. Et j'ai 5 permanents à qui je voudrais tirer un grand coup de chapeau ce soir.
Ils le méritent.
Voilà, qui sont Florence, Sylvia, Muriel, Soraya et notre directrice qui s'appelle Olivia Drieux. Et qui est à mes côtés depuis plusieurs années maintenant et qui fait un travail remarquable.
D'accord, donc si on comprend ce que tu viens de nous dire, il y a l'apport en activité qui génère donc des bulletins de salaire et donc de l'argent pour ceux qui en ont besoin. Mais vous avez aussi une activité de formation, c'est-à-dire que quelqu'un peut arriver avec voilà, une période de décrochage métier et qu'il peut éventuellement se réorienter ou en tout cas embrasser une nouvelle activité métier grâce à des dispositifs de formation que vous mettez en place.
Alors, nous sommes situés dans les quartiers de l'Eure, 30 rue de Valmy, c'est important de le préciser.
J'allais te poser la question, mais voilà. Tu vas avancer.
On reçoit beaucoup de profils différents et on a une conseillère professionnelle en insertion qui s'appelle Sylvia.
D'accord.
Et qui accueille chaque candidat potentiel. C'est-à-dire que s'il y a d'autres problèmes, puisque bien entendu on fait partie dans une société où il y a énormément de problèmes, ça peut être des problèmes d'alcool, ça peut être des problèmes de dépendance, de jeu, de drogue ou autre. Des problèmes psy aussi. On flèche les candidats vers d'autres assos qui sont spécialisés. Voilà, c'est un premier filtre.
D'accord.
Ensuite, comme on va être amené à travailler dans les entreprises et chez les particuliers, puisqu'on fait les deux, on a des modules de formation qui sont essentiellement des modules de formation dans tout ce qui est propreté, ménage, nettoyage. Parce que quand on arrive dans une entreprise pour nettoyer des bureaux, il y a des techniques. On ne fait pas n'importe quoi.
C'est dur, bien sûr.
Voilà, et donc c'est Muriel qui forme tous ceux qui vont être après amenés à être à disposition de nos clients. On a un petit module de formation espace vert, mais là c'est beaucoup plus facile, puisqu'en fait la formation est pratique, elle est directement chez les clients, hein, avec un encadrement qui est... voilà, mais c'est... On ne va pas élaguer des arbres, on ne va pas tailler des haies à 3 à 5 mètres. Mmh. Après, ça nécessite des qualités et des compétences de travail en hauteur. Donc, c'est du désherbage, c'est de la tonte de pelouse, c'est du jardinage, hein, on va dire, voilà, oui. Principalement. Mmh.
Tu parlais effectivement de cette première mission que propose la BAC d'apporter des activités à ces personnes, mais tu parlais également de ce volet non visible, finalement, de la problématique de chaque individu, chaque personne qui vient vous voir avec sans doute d'autres sujets comme tu le disais, peut-être des problèmes d'alcoolisme, d'isolement, de problèmes financiers. Cette orientation donc se fait avec des partenaires. Vous avez problèmes financiers, est-ce que vous avez des partenaires bancaires, problèmes voilà, d'isolement, est-ce que vous avez une association qui travaille avec vous là-dessus?
Alors, on a plusieurs associations qui travaillent avec nous sur le Havre essentiellement, puisque pour répondre aussi dans la première question, on est essentiellement
oui,
dans la localité havraise. Oui, tout à fait.
Mais même si, je fais une petite parenthèse, la BAC existe un peu partout, la BAC Brosée d'eau chômeur, existe un peu partout en France?
Alors non,
non, c'est vraiment,
non, c'est une spécificité havraise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était une émanation de la Croix-Rouge.
D'accord.
J'ai pas connaissance qu'il y en ait d'autres ailleurs, il y a d'accord. Peut-être d'autres formes, hein, sans doute, avec mm-hmm. d'autres appellations.
D'accord.
Mais c'est pas national.
Très bien.
En ce qui concerne l'accompagnement, on fait attention de ne pas être trop intrusif non plus. Parce que se mêler des affaires financières des gens, c'est délicat. On peut donner des conseils dans l'instant. Ça, c'est la conseillère professionnelle d'insertion qui le fait. Très bien, d'ailleurs. Mais on ne va pas aller jusque s'occuper des découvertes bancaires ou autres.
Mais vous êtes en mesure de répondre s'il y a une démarche
en revanche,
volontaire, voulue
tout à fait.
De la personne qui vient vous voir.
Tout à fait. Et en revanche, on a mis aussi un système en place. Mais ça, c'est assez récent. Ça date de quelques années seulement. Où on peut aller jusqu'à accompagner une personne qui malheureusement a eu un accident dans son parcours de vie et qui n'a par exemple plus de carte vitale ou plus de carte d'identité. Et là, on s'est rendu compte à travers notre vécu, hein, notre expérience, que les gens venaient se présenter, retirer un dossier. Et puis on leur disait qu'il fallait aller à l'hôtel de ville, notamment, prendre un ticket et puis refaire les papiers. Et ces gens-là, on les perdait. Ils ne revenaient pas. Parce qu'ils avaient peur d'aller à la mairie. Ils avaient peur qu'on leur pose des questions et qu'ils ne puissent pas répondre. Donc ça arrive dans certains cas qu'on aille chercher les personnes chez elles. Ouais, et puis, on les accompagne.
C'est un véritable accompagnement, voilà. Physique même.
Voilà. Voilà, et si ça peut nous aider à, entre guillemets, sauver quelques personnes par an, c'est toujours ça de prix.
De sortir de certains blocages et d'inhibitions terribles. Justement, par rapport à cet exemple que tu cites, est-ce que vous avez constaté sur la durée, depuis le temps que tu es aux manettes de cette association, des évolutions, des profils qui viennent vous voir, de nouvelles problématiques qui viennent s'ajouter à des problématiques traditionnelles ou historiques?
Alors, on a un profil de femmes, je dirais depuis 5, 6, 7 ans, peut-être même une dizaine d'années maintenant, qui est très caractéristique et qui... ce sont des femmes d'une cinquantaine d'années qui étaient mariées, qui ont élevé trois enfants, qui ont tenu leur maison, qui ont soutenu leur mari dans le quotidien. On sait ce que ça représente, une femme qui est au foyer et qui élève trois enfants. Et puis le mari s'en va, avec une femme plus jeune souvent. Et puis cette femme se dit, moi je dois travailler, mais j'ai 50, j'ai 52, j'ai 54 ans et je sais rien faire, ce qui est faux.
Évidemment.
Ce qui est faux, parce que non seulement elle sait faire, mais elle sait bien faire. Donc ce profil de personne, quand elle arrive chez nous, y a pas de formation. Hein. Repasser, faire du ménage, tenir une maison, c'est même des profils qui sont très précieux pour nous. Assez rapidement, si la personne persiste dans cette prestation, dans ce métier, elle va pas rester chez nous. Et on réinsère à peu près entre 15 et 17 personnes par an en CDI. Dans des sociétés. Je peux les nommer puisqu'ils sont sur la place du Havre. Hein. Il y a Chivar qui vient faire son marché chez nous. Il y a la Normande de nettoyage. Enfin voilà. Des sociétés qui récupèrent du personnel chez nous, qui est formé, qui est très performant et on en est ravis parce que nous, l'objectif, c'est ça.
Oui, vous êtes un tremplin.
C'est de réinsérer les gens en CDI dans des entreprises.
Et donc, par rapport à ces évolutions de profil, donc on comprend, d'après ce que tu viens de dire, qu'il y a notamment ces femmes qui sont dans une situation monoparentale avec des enfants à gérer. Exactement. Et puis une rupture. Est-ce qu'il y a d'autres types de profils nouveaux par rapport à une société qui évolue, une société qui change, où on est quand même sur des problèmes traditionnels?
Alors, il y a une activité qui s'est beaucoup développée chez nous ces dernières années, c'est l'entretien des jardins et des espaces verts. Alors tout simplement, mais ça s'explique à l'autre bout de la chaîne, ce sont nos clients. On vit de plus en plus vieux. Et puis les gens continuent à essayer de rester le plus longtemps possible chez eux. Et ça, c'est super. Mais forcément, quand on a passé 80, 85 ans, entretenir son jardin, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux. Donc, cette activité s'est énormément développée, mais du fait du vieillissement de la population. Ensuite, on a aussi beaucoup de jeunes qui sont sortis du système scolaire. Pas forcément, alors on n'est pas du tout dans la délinquance, hein. On ne met pas des gens dangereux chez nos clients, mais des jeunes qui veulent s'assumer plus vite, pour certains qui reprennent un parcours d'études après, parce qu'ils ont compris que s'ils voulaient aller plus loin dans la vie, il fallait quand même un minimum de bagages. Et ces jeunes-là, on les retrouve plutôt dans tout ce qui va être manutention, portage, débarras. Parce que là, il faut être un peu physique. Hein.
Bien sûr.
Ça peut être monter du bois qui a été baigné dans une rue et qu'il faut installer dans une maison. Quand on débarrasse du matériel, ça peut être très lourd à porter. Donc, ils sont plutôt dans cette activité-là. D'accord. Mais des jeunes, de plus en plus, oui.
Donc, vous faites une œuvre aussi de reconstruction de la confiance de ces personnes et de retisser un lien social pour ces personnes qui sont souvent, finalement, comme tu le disais, un peu dans un phénomène d'inhibition, en n'osant pas aller vers les autres. Donc il y a une vraie œuvre concrète qui se met en place. Est-ce que vous provoquez ces choses-là aussi par... tu parlais d'un accompagnement psy. Vous avez des personnes en charge de ces questions au-delà de la dimension métier pur?
Alors non. Nous, notre rôle s'arrête avant ça.
D'accord.
On ne peut pas aller aider les gens après tout ce qui touche... alors psy, c'est un gros mot parce qu'on peut mettre beaucoup de trucs, mais
oui, non, bien sûr.
C'est pas notre métier, on sait pas faire. D'accord. On n'a pas les personnes en face pour accompagner. Mmh. En revanche, on sait orienter et flécher. Mmh. Par contre, ce qu'on sait bien faire, c'est accueillir. C'est-à-dire que quand j'ai pris la présidence de la BAC en 2011, j'ai commencé par regarder, puisque j'ai une entreprise, donc je gère au quotidien déjà beaucoup de choses. Mmh. J'ai essayé de regarder uniquement ce que je pouvais améliorer. Donc tout ce qui était bien, ben, on n'y touchait pas, on mettait un peu d'huile dans les rouages pour que ça continue à bien marcher. Et notamment, on était locataire depuis 25 ou 27 ans de nos locaux. Mmh. Donc on les avait déjà payés deux fois. Donc on a acheté nos locaux, toujours en restant sur nos terres, hein, dans le quartier de l'Eure. Et donc au 30 rue de Valmy, on a essayé de faire un espace simple, agréable et chaleureux, à l'accueil déjà.
Mmh. Oui. Ça compte beaucoup. C'est vrai que ce premier contact est important.
Exactement, parce que les gens sont un peu, ils sont souvent cooptés ou ils sont souvent fléchés, mais c'est pas évident de pousser une porte, hein, et puis de venir demander de l'aide. Mmh. C'est pas facile. Et puis ensuite, après, on se rend compte qu'il y a des liens qui se créent entre eux, ces personnes-là, puisqu'elles se croisent en permanence. Mmh. Et puis, j'y reviens encore une fois, mais j'ai une équipe remarquable avec des femmes. Qui sont extraordinaires, qui font un travail quotidien qui est vraiment fabuleux. Et donc, tout de suite, les personnes qui nous rejoignent et qui demandent à ce qu'on les aide se sentent bien assez rapidement.
Oui, c'est pas une grande difficulté de continuer à ouvrir la porte jusqu'au bout.
Non, non, non.
Est-ce que vous avez besoin, justement, de force vive ? Est-ce que tu as une équipe de 5 personnes dont tu as parlé et qui est remarquable. Est-ce que vous avez besoin ponctuellement, je lance une sonde en disant, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent ou qui sont peut-être dans la salle et qui voudraient apporter une aide d'une manière ou d'une autre à la Bourse des Deux Chômeurs ?
Alors, là, je vois un aspect qui peut être intéressant à aborder ce soir, c'est l'aspect économique et la manière dont on vit, dont on fait vivre l'assaut. Volontairement, on n'a aucune aide, ni de la mairie, ni du département, ni de la région.
C'est un choix.
C'est un choix. On n'en veut pas, enfin je n'en veux pas, parce que comme ça notre modèle il est plus fiable, on n'a pas l'épée de Damoclès, si on réduit, et c'est ce qui est le cas en ce moment et on sait pourquoi. Donc on vit de nos heures vendues, bien entendu on n'est pas très cher, parce que le but c'est pas de gagner de l'argent dans l'assaut, c'est de faire,
faire tourner
et d'employer des gens. Donc l'appel que je pourrais lancer ce soir, c'est aussi bien des particuliers que des entreprises qui auraient besoin de... repenser ou de revoir son système de propreté, ménage, nettoyage. Donc pour les particuliers, bah ceux qui n'ont plus de femme de ménage parce qu'elle a déménagé, parce qu'elle est partie en retraite ou autre. Et puis dans les entreprises, ça peut être aussi celles qui ne sont pas contents, hein, des prestations actuelles parce que vu l'encadrement et la formation que nous on a en place, on est vraiment irréprochable au niveau de la prestation.
Je peux en témoigner, hein, sans faire de pub, mais dans le cadre de mon entreprise, j'ai fait appel à la Bourse des Deux Chômeurs pour le déménagement de mes locaux et ça s'est très 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 bien passé.
Je te remercie.
Est-ce que tu pourrais, je ne sais pas, ce n'est pas une question piège, hein, mais nous dire, est-ce que tu as, depuis que tu y es, en mémoire, un parcours que tu retiens de quelqu'un qui est venu ouvrir la porte une fois, qui était vraiment en situation de grande difficulté, peut-être même de détresse, et dont tu as su que, voilà, grâce à ce tremplin, il est aujourd'hui bien dans ses baskets, si j'ose dire.
Alors, il y a plusieurs profils qui me viennent à l'esprit, mais la mieux placée pour en parler, ça aurait été Olivia Drieux, puisque la directrice, elle côtoie
au quotidien. Hein.
Mais elle ne pouvait pas être là ce soir. Moi, j'ai une personne qui me vient en tête tout de suite, dès que tu m'as posé la question. Un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre, qui avait un parcours remarquable d'ingénieur, et puis qui a eu un accident... parcours de vie personnel, familial, avec tout ce qui s'ensuit, hein, séparation, rupture, très compliqué, et puis un burn-out à la clé. Cette personne-là, quand il est arrivé chez nous, s'est un petit peu demandé, à part de la manutention, ce qu'on pouvait lui faire faire. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'il avait des qualités un peu hors normes, et on a commencé à faire, chez les particuliers essentiellement, du montage de meubles. Mmh. C'est-à-dire que certaines personnes, par manque de temps, par manque de bricolage ou d'être outillé, ou parce qu'ils n'aiment pas, commandent des meubles. Ça peut être tout simple, hein, des meubles de cuisine, des meubles de salle à manger, et j'en passe. Et on a commencé à faire ce type de prestations. Et ce Jean-Pierre était remarquable dans sa manière de faire. Il a retrouvé confiance en lui. Au bout d'un an, il était requinqué. Et au bout d'un an et demi, il nous a quittés. Il a retrouvé un emploi stable et tout va bien.
C'est voilà, formidable.
Par exemple.
Des exemples comme ça, et je pense qu'il y en a beaucoup. On arrive tout au bout de notre échange, Frédéric, en te remerciant à nouveau. Même chose, hein, s'il y a des questions ensuite, tout à l'heure, avec le public, pourquoi pas. Peut-être juste rappeler où est-ce qu'on peut pousser la porte, quelle est l'adresse, et qu'est-ce que tu pourrais adresser comme message à quelqu'un qui n'ose pas encore pousser cette porte.
Alors, nous sommes situés dans le quartier de l'Eure, à côté du stade de football Valmy, rue de Valmy, au 30 rue de Valmy, qui sera bientôt desservi d'ailleurs par une branche du tram qui va passer juste devant. Pour l'instant, ça nous pénalise plus qu'autre chose parce que l'accès n'est pas simple. Il y a des travaux, ça change un peu de circulation tous les jours. Enfin bon, on s'adapte. Bon, écoutez, moi, j'ai essayé de vous faire passer quelques messages ce soir. Vous serez bien reçus. On ne vous juge pas. Tout le monde peut avoir des accidents dans, une, dans un parcours de vie, y compris les gens qui sont peut-être autour de la table ce soir. Hein. On n'a pas tous eu un parcours lisse. Donc n'ayez pas peur, rejoignez-nous, on est bienveillants et on s'occupera bien de vous. Voilà.
Merci beaucoup Frédéric. Je repasse la parole à Guillaume pour nous parler cette fois-ci pour un échange avec la Croix-Blanche.
Merci Frédéric et Frédéric. Jocelyne, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis vraiment ravi de te recevoir et je te remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir.
C'est un plaisir.
Jocelyne, tu es vice-présidente de la Croix-Blanche.
Oui.
Alors moi, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de faire un stage de premier secours en équipe à la Croix-Blanche. Mmh. Et j'étais ravi avec des équipes formidables que tu diriges, si je puis dire. Mais j'avoue, je dois avouer que la Croix-Blanche, c'était pas le premier... comment dire, je connaissais pas spécialement la Croix-Blanche. On pense Croix-Rouge, mais pas forcément Croix-Blanche. Voilà. Est-ce que tu peux nous d'abord te présenter peut-être en quelques mots sur ton parcours et nous dire ce qu'est la Croix-Blanche et quelles sont les missions de la Croix-Blanche, s'il te plaît.
Tout à fait. Donc moi, je m'appelle Jocelyne Mailleux. Donc ça fait 50 ans cette année que j'ai intégré l'association, en fait.
Oui.
Donc je suis bénévole. Je suis comme mon voisin, en fait. Je suis retraitée. Donc je fais à peu près un temps plein, à peu près un temps plein à l'association, en fait. Oui. Donc voilà, j'ai gravi des échelons. J'étais
tu es retraité à temps plein dans l'association.
Ah, retraité à temps plein dans l'association. Ouais, ouais. donc l'association.
Oui.
Donc l'association, elle a été créée en 1969. On a vécu deux époques pour l'instant. On a été pendant 25 ans sur une autre fédération. Et on a intégré la Croix-Blanche, les secouristes français Croix-Blanche, en 1999 en fait.
Oui.
On se sentait mieux au sein de la Fédération des secouristes français Croix-Blanche.
Ah, parce que là, tu parles du Havre spécifiquement ?
Oui,
ah,
du
d'accord.
Havre.
Okay. Est-ce que tu peux nous parler de la mission Croix-Blanche
en général,
de manière nationale ?
On est découpé, ça ressemble un petit peu au SNSM. On a une fédération. On a ensuite des découpages en comités départementaux.
Oui.
Donc il y a environ, 72 départements qui sont couverts par la Croix-Blanche. Mmh. Et chaque comité départemental a 1, 2, 3, 4 ou 5 associations locales.
D'accord. Et vos missions sont les mêmes,
sont similaires à la Croix-Rouge, tout à fait. Mmh. Nous, chez nous, la première des missions, c'est la formation. Oui. On a vraiment basé un peu tout sur la formation. On fait quand même des dispositifs prévisionnels de secours, ce qu'au quotidien, on appelle des postes de secours.
C'est-à-dire, vous êtes présent sur des manifestations.
On est présent sur des manifestations pour assurer la prévention. Mmh. Et puis aussi, s'il y a des personnes qui sont blessées, malades, qui ne se sentent pas bien, ils viennent nous voir. Et
ils peuvent se déplacer
en charge.
Voir.
Alors, il y en a qui viennent, ils viennent nous voir sur le poste de secours. D'autres, c'est nous qui y allons. Mm. Et on peut assurer jusqu'au transport, puisque notre association a l'autorisation de transporter dans des véhicules les blessés à l'hôpital sur demande des secours, sur demande des SEMU, du SAMU, bien entendu.
D'accord. Donc, au Havre, qui sont les hommes et les femmes qui constituent cette association ? Vous êtes combien et quels sont les profils ? C'est
environ...
à peu près la même question pour la SNSM, finalement.
Oui, bien sûr. Nous sommes environ 70, je pense, à peu près. Les encadrants sont... un petit peu moins jeune.
J'ai un peu plus de temps.
Un petit peu plus, oui, quoique on a beaucoup de personnes entre 40 et 50 ans. Mmh. Par contre, les secouristes sont assez jeunes.
D'accord, donc ils sont bénévoles également ?
Ils sont bénévoles chez nous, à part les formateurs, mais sinon tous les secouristes sont entièrement bénévoles. C'est important pour nous de rester sur cette notion de bénévolat au sein du secourisme, en fait.
D'accord, donc une soixantaine de personnes, et au niveau, vous êtes placé où,
donc en notre local est au 21 rue du Mougnan, à Fontaine-la-Mallet.
Vous avez des véhicules, des moyens
Alors on a des véhicules légers, on doit en avoir trois ou quatre, qui nous permettent principalement d'assurer les formations à droite à gauche. Mmh. Et on a deux véhicules pour le transport des blessés, voilà, pour les postes de secours en fait. Mmh. Donc je suis un petit peu comme mon voisin, on se ressemble avec mon voisin. C'est-à-dire que nos véhicules ne sont pas de toute première jeunesse. Avec les aléas que ça peut engendrer en fait. Mmh. Voilà.
Tu parlais des formations et que vous aviez un rôle essentiel dans ce domaine.
Oui.
Quels sont les types de formations que vous organisez ?
Alors, des formations... Il y en a de tous les niveaux. Ça commence par des formations très courtes, ce qu'on appelle les gestes qui sauvent, qui ne durent que 2 heures.
Ah oui.
Et cette formation, elle va droit à l'objectif. En fait, le but, c'est vraiment de faire les gestes principaux pour sauver une vie. C'est que si quelqu'un est un minimum intéressé pour porter secours à son prochain, mais même dans sa famille, en fait, vraiment, c'est top.
D'accord.
Voilà. C'est uniquement pratique, il n'y a pas de théorie, c'est simple, c'est à la portée de tout le monde et on peut le faire à partir de l'âge de 10 ans. Après, la formation un petit peu plus poussée, mais qui est aussi sur monsieur, madame, tout le monde, ça va être le PSC, donc prévention et secours, premier secours citoyen, pardon, ça a changé il n'y a pas longtemps. Et là, on est sur une formation de 7 heures. Donc là, c'est à partir de 10 ans aussi, mais là, c'est déjà 7 heures.
Il faut être un peu plus attentif.
Voilà, il faut être un petit peu plus intéressé ou être dans l'obligation de le passer.
D'accord.
Puisqu'il y a certains métiers, il y a certaines entrées pour des concours, des écoles, etc., qui nécessitent d'avoir obligatoirement le PSC.
D'accord. Les entreprises aussi sont demandeuses pour...
Alors les SST, c'est une autre filière. D'accord. Pour les entreprises. Pardon, c'est le SST, le sauveteur secouriste du travail. Donc là aussi...
C'est une formation particulière.
C'est une formation particulière parce qu'elle allie la prévention en entreprise et le secourisme en entreprise.
C'est une formation qui est obligatoire ou pas ?
C'est une formation... Alors, c'est pas obligatoire pour tous les salariés. Les entreprises doivent avoir un certain nombre... De personnes formées au secourisme dans les entreprises.
D'accord.
Après nos formations, on forme la formation qu'on a eu le plaisir...
j'ai eu le plaisir d'assister. Premier secours en équipe.
Oui, le premier secours en équipe de niveau 1 ou de niveau 2. Donc là, c'est vraiment... Le PSE1, c'est une formation qui dure 35 heures. Le PSE2, 28 heures. Ce sont vraiment des formations où les gens veulent soit... s'impliquer dans une autre association, ou s'impliquer dans notre association. Mais là, c'est pour faire de l'opérationnel.
Voilà, pour aller sur le terrain.
Là, c'est pour aller sur le terrain.
D'accord. Donc, à titre personnel, on peut s'inscrire auprès de la Croix-Blanche pour passer le stage PSE1,
Moi,
PSE2.
Je vous encouragerais parce que il y a le fait de porter secours, il y a le fait d'apprendre des choses qui sont hyper sympathiques et le fait d'être après avec
de
une
travailler
équipe,
en équipe.
Voilà. D'être après avec un groupe de personnes. Il y a des affinités qui se créent, ils veulent faire des postes ensemble. Enfin, il y a vraiment une ambiance assez familiale au sein de notre structure qui reste quand même une structure assez petite, en fait, par rapport à certaines autres où il y a des centaines de personnes.
Qu'on a cité, mais qu'on ne citera plus, peut-être. Ouais. OK. Et du coup, donc, cette formation PSE1, PSE2, oui. Ça vous permet d'intervenir lors de manifestations. Quelle place vous prenez dans le dispositif organisationnel des secours lors d'événements ?
Alors, on est...
Par rapport aux pompiers, au SAMU
Déjà, on a des agréments préfectoraux pour pouvoir faire ce genre de dispositif, en fait. Mmh. Et c'était la demande des organisateurs. Ils nous demandent, ce sont eux qui nous demandent, pour tel jour, telle heure, on a besoin d'une équipe de secours.
Peux nous donner un exemple, par exemple, de manifestation
ce week-end, on était doublement au forum des associations, puisqu'on y était pour tenir un stand. Et on
pour vous présenter et en même temps intervenir.
Pour assurer les premiers secours. les manifestations, elles sont très diverses. Ça peut être des toutes petites manifestations, comme ça peut être des choses plus importantes, voire même au niveau fédéral. Il y a possibilité, des fois, de demander des renforts. On a des secouristes de chez nous qui sont allés aux Jeux Olympiques. Oui. Il y en a qui peuvent aller aux 24 heures du Mans s'ils le souhaitent. Enfin...
En fait, quand on s'inscrit et qu'on est formé par la Croix-Blanche à ces stages, on a un certificat.
C'est un diplôme.
C'est un diplôme reconnu par l'État.
C'est un certificat de compétence qui est reconnu par l'État. Les associations agréées de sécurité civile dépendent du ministère de l'Intérieur, curieusement. Et le diplôme, donc, est à l'effigie du ministère de l'Intérieur.
D'accord. Et ce diplôme nous permet de postuler pour participer à des manifestations partout en France,
tout
en
fait.
Donc
tout
ça peut être bien, par exemple, pour un jeune ou pour un moins jeune, découvrir la France, des événements.
On a des jeunes qui étaient hyper contents d'aller sur les Jeux Olympiques. On en a un qui a croisé Tom Cruise. Quand même.
Ah, ok. Le respect.
C'est
respect.
La classe.
C'est la classe. Oui. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu penses que nous sommes, nous, en France, suffisamment formés aux gestes de premier secours ?
Non. Ça manque toujours. Ouais. Ce qui manque, c'est peut-être le primo intervenant, c'est-à-dire celui qui va tout de suite faire un geste salvateur, je ne sais pas, mettre la personne sur le côté, appuyer sur une hémorragie et alerter les secours. Et ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde, mais je pense que les gens, ils ont un petit peu... peur. D'abord, ils ont peur de faire mal.
On a peur, oui.
Ils ont peur d'être tenus pour responsables, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, puisque il y a une loi qui s'appelle la loi du citoyen sauveteur, en fait, qui précise bien que la personne qui porte secours, avec ou sans formation, c'est la personne, si elle fait un mauvais geste, ce sera pris en charge par l'État. En fait, c'est l'État qui va ensuite... indemniser la personne, etc., etc. Quoi. Donc, il n'y a aucun risque de devenir secouriste, d'apprendre les premiers gestes et de les appliquer comme ça sur les gens qui sont autour de nous.
D'accord. Est-ce que tu as des chiffres peut-être en tête sur le nombre d'interventions que vous avez réalisées
Non, pas vraiment.
Pas vraiment. Un certain nombre.
Oui, un certain nombre, oui. Le secourisme, c'est aussi l'école de la patience.
Oui.
Parce que le blessé, il faut l'attendre.
Ah oui.
Il vient pas toujours. Hein.
Okay. D'accord.
mais faut être prêt quand il arrive.
Ok. Au niveau du rythme de formation, une fois que les personnels sont formés, il y a besoin de refaire des stages régulièrement, une fois par an.
Obligatoirement au niveau de l'État, en fait, c'est géré par des textes. On doit faire une formation continue de 6 heures tous les ans.
Tous les ans.
Oui, c'est annuel.
Ok.
Donc c'est pas énorme. Et nous, à l'association, on n'oblige pas les gens à dire il faut absolument que tu fasses X postes. En fait, on a des postes, on envoie l'information à tout le monde et puis s'inscrit qui veut.
Quelqu'un qui rejoint l'équipe, en fait, ça marche par un système d'alerte.
Oui,
il se met disponible ou pas pour la semaine ou pour la journée.
Il
s'inscrit pour les événements à venir. D'accord.
Voilà.
Donc, en fait, si des personnes sont intéressées là, ce soir, des personnes qui nous écouteraient.
Ah, mais
alors, comment on fait pour soutenir la Croix-Blanche et pour soit la soutenir, soit y participer.
Pour venir s'inscrire, c'est facile. Il suffit de venir dans les locaux de l'association.
Vous avez un site internet.
On a un site internet, bien entendu. Pour soutenir, forcément, on a toujours besoin... un petit peu comme notre collègue, là. Ouais. En fait, l'association, elle est quasiment entièrement autofinancée. Ce sont nos formations qui nous permettent
de financer
le fonctionnement de l'association et toute la partie opérationnelle. Les personnes qui nous demandent de faire un poste de secours, ils payent une contrepartie, mais ça... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut dépenser lorsqu'on met en place un poste de secours avec tout le matériel dont on a besoin. Le matériel, c'est l'État qui décide de ce qu'on doit avoir dans un véhicule, dans un poste de secours.
Et c'est à vous de le financer.
Et c'est à nous de le financer, tout à fait.
D'accord.
Oui.
Bien. Donc on peut vous joindre sur votre site internet,
oui,
ou directement physiquement,
à Fontaine-la-Mallet
pour s'inscrire ou pour,
oui,
faire un don.
Oui, ou même donner du temps quelquefois, même si on n'a pas tellement envie de faire secourisme. Mais je vous parlais de mes ambulances, oui. Quelqu'un qui aurait des talents
de mécanicien, par exemple,
de mécanicien, et puis qui saurait bien bricoler ce genre de choses, et ben on est tout à fait preneur, en fait.
Oh, ok, voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Jocelyne. Le message est passé.
Et merci.
Je te remercie. Puis je repasse la parole à Frédéric et
merci à toi,
aux navigatrices du désert.
Merci. Merci, Jocelyne. Alors, last but not least, comme on dit en bon français, les navigatrices du désert. C'est déjà tout un programme en soi, rien que le nom. Et ma première question est toute simple, c'est qui êtes-vous? Et comment cette aventure s'est montée? J'imagine que c'est avant tout une histoire d'amitié. Vous êtes trois. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Alors, vous êtes deux présentes ce soir, Aurélie et Bénédicte. Sarah est un peu loin, comme je le disais. Mais voilà, simplement nous dire qui vous êtes dans un premier temps.
Bonsoir.
Bénédicte.
Merci beaucoup également de nous recevoir ce soir.
Avec plaisir.
Donc, c'est une aventure qui a été fédérée par Aurélie. Donc, qui est ici présente, et je pense aussi que c'est parti beaucoup de rêves et en même temps d'exemples qu'on a pu voir autour de nous, de personnes qui participaient à des défis sportifs avec des buts de récolter des fonds, donc notamment qu'on a pu voir par rapport au Téléthon, au Secours Populaire, etc. Donc là, le projet est différent. Et donc, Aurélie, toi qui nous as embarqués, et merci beaucoup. Je te laisse expliquer comment tout ça est né.
D'accord. Aurélie.
Bonsoir.
Bonsoir.
À toutes et à tous. Donc, je suis Aurélie.
Il faut changer le micro. On vous entend pas. On t'entend pas. Vas-y.
Donc, bonsoir tout le monde. Je suis Aurélie. Et les navigatrices du désert, c'est le nom d'une association qui regroupe trois femmes. Donc Bénédicte qui vient de se présenter, ma sœur Sarah qu'on embrasse fort et à qui on pense parce qu'elle est à Marseille, et moi-même. Et pour ce qui me concerne, moi j'ai toujours aimé la nature, les grands espaces. C'est peut-être parce que j'ai grandi dans une ferme et que mon père était paysan, mais en tout cas la nature s'est ancrée en moi et je suis sportive depuis toute petite aussi. Et
donc on a compris effectivement que votre association, c'est l'addition d'une passion qui est celle, ouais, de la nature et du sport.
Et de la solidarité.
Et pour en faire quelque chose de solidaire.
Ouais,
voilà,
d'un
exactement.
Esprit très, très solidaire.
Très concrètement, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre défi, votre challenge en tant que navigatrice du désert?
Alors, nous allons participer au mois de novembre prochain au Trekking Gazelle. C'est une course d'orientation 100% féminine dans le sud du désert marocain. Nous partons une semaine et allons marcher 4 jours.
Donc c'est de la marche, hein, c'est pas en voiture, c'est pas en...
Surtout pas en voiture, voilà. Enfin, il y a beaucoup de...
Il y en a qui...
Oui,
le font.
Oui, oui, bah, chacun son truc. Moi, les moteurs dans le désert, ça me faisait pas du tout envie. Et on va parcourir aux environs d'une vingtaine de kilomètres par jour en essayant d'aller ramasser le plus de balises possible, puisque les balises enclenchent des dons à une association. Voilà.
D'accord. 20 kilomètres par jour, vous l'avez signalé combien de jours?
4 jours de marche au total.
D'accord.
Oui.
Donc dans un désert marocain qui ne sera pas encore très, très frais en novembre, mais quand même plus supportable qu'aujourd'hui.
Oui, on nous conseille de prendre des très bons duvets, oui, pour la nuit.
Pour la nuit,
je crois que les températures augmenteront au fur et à mesure de la journée. On va se dévêtir au fur et à mesure de la journée.
Donc c'est-à-dire, concrètement, là, pour parler de l'exploit sportif, hein, parce que c'est le mot, vous allez partir avec une carte, une boussole. Un GPS, quelque chose qui va vous orienter ou
Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé. C'est sans aucun appareil connecté. Ouais. C'est uniquement à la boussole, visée de compas. Et,
les étoiles
les étoiles, je ne crois pas. Bon. Mais en tout cas, on va naviguer comme les marins à l'ancienne. Et ouais. D'où notre nom, les navigatrices du désert. Et pour se former à ça, on est obligé de passer par un stage d'apprentissage pour apprendre à utiliser justement la boussole et pointer les coordonnées géographiques sur une carte. Et on part le week-end prochain à Avignon et on sera en formation tout le week-end.
Parfait. Vous serez prête, donc.
Bien sûr.
Votre démarche associative est au profit d'une autre association, donc comme on l'a compris, qui s'appelle Les Invincibles. Si vous pouvez nous en dire un mot, en quoi consiste l'objet de cette association et son objectif ?
Les Invincibles, c'est une association, Bénédicte. Voilà, c'est une association pour aider la recherche à la maladie de Charcot.
D'accord.
Donc c'est une maladie de sclérose, voilà. Et cette association, en fait, œuvre à la fois pour récolter des fonds pour la recherche, pour aider les malades et les familles, et aussi pour changer le regard sur la maladie. Et en fait, pour cette année, donc nous avons un parrain pour l'édition des Trekking Gazelles, qui s'appelle Olivier Goy.
D'accord.
En fait, c'est un ingénieur dans la tech qui, en 2020, en jouant au tennis, n'arrivait plus à tenir sa raquette et de là a identifié qu'il avait cette maladie. C'est une maladie, comme il dit, enfin, je reprends un peu ses mots, qui rend prisonnier de son corps en pleine conscience. Et cet homme qui est dans la tech utilise l'IA pour pouvoir s'exprimer, c'est assez extraordinaire. Mmh. Et il partage avec toutes les participantes des valeurs de vie qu'il utilise aussi au quotidien et qu'il veut partager. Et communiquer pour les malades et aussi nous encourager dans le sport et à vivre chaque journée à plein et avec les valeurs d'effort et de partage.
En tout cas, on est ravis de pouvoir servir de chambre d'écho parce qu'au-delà de ce que vous allez faire, et qui vont rapporter évidemment des milliers d'euros, on l'espère, on vous le souhaite en tout cas, on prend conscience de l'existence des Invincibles et de lancer aussi justement cet appel à tous ceux qui veulent, j'imagine, peuvent contribuer à aider la recherche contre cette terrible maladie. Donc si on revient à cet objet, cet objectif qui est le vôtre, donc de collecter de l'argent, vous vous êtes fixé un objectif ou ce sera ce que vous pourrez et ce sera très bien comme ça?
Donc par rapport à ça, il y a un coût de base sur lequel
il faut bien organiser tout ça.
Par les sponsors. Et on récolte des fonds un maximum pour pouvoir reverser. On avait un objectif, on a un objectif qui reste modeste en soi, mais en fait, on voit qu'on est vraiment bien suivi.
Oui, il y a un effet d'entraînement.
Les personnes se mobilisent ou des entreprises autour de nous. Et donc, on va continuer jusqu'au bout pour essayer de récolter au maximum. Donc, on était resté très modeste.
Parce qu'Aurélie, tu parlais de balises qui sont valorisées, qui ont une valeur, c'est ça ?
Oui.
Ça vaut quoi, en fait ?
Concrètement, à chaque balise trouvée dans le désert, ça enclenche un don de 5 euros auprès des Invincibles.
D'accord.
Donc, il y a un système de balises obligatoire où, lors de notre trajet, on est obligé de passer pour les ramasser, et il y a un autre système qui est non obligatoire. Donc, nous, on va essayer d'avoir le maximum, les obligatoires, bien entendu.
Mais les non-obligatoires, vous perdre.
Sans se perdre, et avec un système de difficulté, de couleur, selon la difficulté pour trouver chaque balise. Mais une balise égale des dons pour les Invincibles. Donc, on va tout faire pour en avoir le maximum.
Bénédicte, tu veux rajouter ?
Oui, et donc en fait, la veille, on reçoit des instructions sur le point d'arrivée. Mmh. On part toujours du même endroit. Donc on a des cartes très fines, donc satellites, des cartes aussi habituelles de randonnée. Et par rapport à ça, au final, la difficulté est au fil de l'eau. C'est aussi le challenge, il faut trouver la stratégie au fil de l'eau, où on a les balises bonus, mais on n'en est informé qu'au fil de l'eau. Et d'accord. C'est là où il faut avoir une stratégie aussi. Et puis par rapport à
une
notre...
adaptation
par rapport au relief, ouais. Par rapport...
Et pour comprendre l'écosystème complet de ce challenge, de cette compétition, il y a d'autres, j'imagine, vous avez des concurrentes à vos côtés qui vont essayer d'attraper les mêmes balises, mais qui sont là pour le même objectif, les Invincibles, ou d'autres associations?
Oui, donc on a tous le même objectif, des Invincibles. Mmh. Après, on n'a pas toutes... on part en étoile. On a des objectifs à atteindre qui sont différents.
Distincts.
Donc on est vraiment dans le désert parce qu'on ne va pas toutes au même endroit.
D'accord.
Et par rapport, en complément des Invincibles, tu me dis Aurélie si tu veux en parler, mais aussi y a un aspect respect de l'environnement et une intervention aussi auprès des populations, le ramassage des déchets, enfin vraiment tout d'accord. Est éco-responsable pour pouvoir sensibiliser la population et
c'est plusieurs missions en même temps.
Déchets, et il y a zéro déchet, tout est incinéré. Donc c'est extrêmement vertueux. Un des aspects importants aussi.
Donc il y a cet objectif, bien sûr, que vous êtes fixé pour les Invincibles. Il y a ensuite votre objectif à vous, qui est quand même de rentrer dans cette compétition. Vous vous êtes préparé techniquement. Est-ce que vous vous préparez, j'imagine physiquement, mais mentalement aussi?
Oui, il y a une préparation physique, mais...
Vous êtes déjà des sportives,
Toute façon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est quand même toutes les trois sportives à pratiquer un sport de manière régulière. Et on essaie d'intensifier ces derniers temps notre pratique sportive pour être les plus performantes possibles, sans viser pour autant le podium, mais...
mais pourquoi pas ?
On va voir au fil de l'eau. Et puis mentalement, c'est vrai que c'est un dépassement de soi aussi.
Bien sûr.
Donc on va être très solidaires entre nous. Entre nous trois, les trois gazelles, parce que l'itinéraire, ça va être à nous, comme vous l'a expliqué Bénédicte, de le créer tous les soirs. Et plusieurs itinéraires vont s'offrir à nous, et il va falloir qu'on puisse s'écouter. S'il y en a une qui a mal quelque part, et peut-être qu'il va falloir privilégier de contourner la dune plutôt que de la dépasser, mais ça nous fera plus de kilomètres, donc moins de points. Mais il y a cet esprit de
stratégie d'adaptation,
oui,
de
grande solidarité aussi entre nous, une solidarité à différents niveaux en fait.
Donc ça fait un petit moment que vous vous préparez, est-ce que vous avez connu des moments de doute quand même, alors à la fois sur le plan de l'organisation, où vous sentez peut-être qu'au début ça a patiné, ou sur le plan de votre challenge physique, et puis des moments de grande satisfaction en vous disant ça y est, c'est formidable, on est sur la bonne voie, on va le faire?
Alors, pour ce qui me concerne, à partir du moment où j'ai pris la décision d'y participer, j'ai pas douté.
Pas de doute.
Non, pas de doute. J'en ai parlé à ma sœur et à Bénédicte, et après on était partis pour l'aventure. Droite au but, convaincue de cette belle aventure humaine qui nous attend.
Motivation intacte depuis le début.
Voilà. Après, des petits accidents physiques quand on s'entraîne un petit peu trop de manière intensive, mais je vais y remédier.
On te fait confiance.
Et puis le challenge, c'est quand même le côté technique de savoir faire sa carte navigation comme un marin. Donc on est donc je pense que par rapport à ça, c'est une des difficultés. Et donc on sera très attentive au stage.
C'est ça,
ce que je veux dire.
Il ne sera plus une difficulté à partir de la semaine prochaine.
Et par rapport à ça, on a rencontré un jeune prof de sport qui est spécialisé en course d'orientation, qui s'est dévoué pour nous former, nous donner de la base dans la forêt de Monjon, dans laquelle il y a des balises. Et de ce fait, ça nous a un peu donné une petite initiation déjà.
On arrive tout doucement à la fin de notre émission. Malheureusement, comme le disait Guillaume, on pourrait continuer des heures sur les différents sujets qui nous intéressent ce soir. Deux dernières petites questions. D'abord, on est à quelques semaines avant le départ. Qu'est-ce que vous pouvez passer comme message aux Havrais et aux entreprises du territoire pour vous aider davantage dans votre démarche?
Alors déjà, on a eu de l'aide plus qu'on imaginait. On a un cabinet d'urbanisme à Réa qui est à Rouen, qui pour fédérer son équipe et nous aider contribue. On a également le Crédit Mutuel qui nous donne un appui. On a les Foulées de Gonfreville qui nous aident dans l'équipement. Et puis le cabinet de Montivilliers.
Financière d'Outrelot.
On voit le binôme qui fonctionne parfaitement.
Tout se construit un peu au fil de l'eau. Et par rapport à ça, effectivement, on a même notre club de tennis, le TCO à Octeville, qui a organisé pas plus tard qu'hier un tournoi de tennis. Donc il a fait le plein et il nous a offert le chèque de toutes les inscriptions. Donc par rapport à ça, petit à petit, on récolte. Et effectivement, on a un Instagram, les navigatrices du désert. Et on met à disposition pour les mécènes ou ceux qui souhaitent contribuer à cette bonne cause. Eloasso,
d'accord.
Qui permet de récolter quelques
fonds.
Donc
on tape les navigatrices du désert et on trouve.
Oui, tout à fait. Le lien Eloasso, vous pouvez le retrouver sur notre Insta, les navigatrices du désert. Et en bio, il y a le lien directement sur le compte Eloasso pour faire des dons si vous le souhaitez. Merci à tous.
Et puis sinon, pour les Havrais, tout simplement, on participera aussi au marché piéton de Saint-Vincent, où les dons de la vente de bijoux, c'est le 27, dimanche 27 septembre. Et les dons des ventes seront reversés à ce projet.
Petite dernière question, mais une grande réponse, j'imagine, parce que vous allez arriver au bout de ce challenge et vous allez être, je pense, très heureuse d'être arrivée au bout. Une fois que vous aurez passé la ligne d'arrivée, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir vous dire à ce moment-là, en plein désert marocain? Où est la douche, dit Frédéric.
Je pense que ce sera une grande fierté d'avoir pu aller jusqu'au bout de ce projet qui rassemble de très belles valeurs différentes, mais qui nous sont très chères.
Et j'aurais envie de me dire, au milieu du désert, où on sera seul et déboussolé sans doute, c'est de pouvoir partager l'expérience chaque jour avec toutes les personnes, les entreprises qui nous ont accompagnés. Parce qu'en fait, on ne croyait pas être suivi à ce point-là. Et il y a des choses extraordinaires, comme par exemple une institutrice qui a décidé avec sa classe de suivre notre expérience pour pouvoir partager. Enfin, c'est des choses assez extraordinaires.
En tout cas, les trois girafes de Radio Girafe sont ravis de supporter les trois gazelles.
Un grand merci à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à tous et à toutes. Est-ce qu'on donne quelques minutes la parole à la salle si vous avez une question ou deux? Sinon, on va se quitter là tranquillement, gentiment. Tout a été dit. Tout a été très clair. Écoutez, il ne nous reste plus Guillaume, moi et puis Raphaël aussi. À vous remercier d'avoir été présents, les représentants et représentantes de ces magnifiques associations, pleines de solidarité et en support de l'autre. Et puis, merci au public d'avoir été là et de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée. Puis on vous donne rendez-vous au mois d'octobre prochain pour un nouveau rendez-vous. Bonne soirée.